La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, ce mois-ci, nous regarderons de plus près le rapport à la politique de Jacques Maritain. Rapport à la politique, pourquoi pas appartenance de Maritain à un parti ? Non, Maritain n'a jamais fait partie d'un parti politique. Nous allons donc davantage regarder comment, à partir du cheminement avec les uns et les autres, il élabore une pensée politique. Et je pense vous proposer tout de suite un extrait d'une émission donnée par KTO en 2013 qui met tout de suite le débat au cœur avec la question de l'Action française.
On trouve partout l'idée que pendant ces années, donc on est au seuil des années 20, Maritain était Action française, c'est-à-dire de droite, et qui se l'aurait fait une sorte de conversion lente dans les années 20-30 vers la démocratie chrétienne. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors, absolument pas. Merci Régis de poser cette question qui permet peut-être de rendre un peu plus complexe toutes ces questions politiques. Maritain n'a jamais été membre d'aucun parti politique, jamais, ni de l'Action française, ni de la démocratie chrétienne. Il a cheminé avec un certain nombre de membres de différents partis politiques, mais sans jamais, au sens strict, être affilié. Il était proche de Jaurès dans sa jeunesse, il a défendu un certain nombre de causes typiquement socialistes, jaurésiennes, dans un premier temps. Pendant la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Première Guerre mondiale, sous l'influence du père Clérissac, il rencontre Maurras. Il va fonder avec un certain nombre d'amis de la mouvance maurassienne la Revue universelle, à l'intérieur de laquelle Maritain avait pour mission d'essayer de convertir au catholicisme les milieux d'Action française qui n'étaient pas tous de sensibilité catholique.
D'ailleurs, ça va s'avérer puisque la condamnation va tomber.
Et la condamnation tombera.
Et
Maurras lui-même n'était pas catholique. Donc c'est en tant que missionnaire que Maritain est parti vers les milieux de l'Action française. Et en même temps, il faut le dire, la vérité historique l'exige, Maurras et Maritain ont fait un héritage commun. C'est un jeune poilu qui décède sur le front, qui va leur léguer sa fortune et créer ipso facto une association entre les deux hommes qui vont se partager cet héritage. Avec sa part, Maritain achètera la maison de Meudon et cofondera la Revue universelle.
Voilà, Maritain et le philosophe dans les colonnes de la Revue universelle. Je rappelle qu'il est converti au thomisme après avoir été plutôt anarchiste, et cette conversion va l'orienter vers des milieux de droite. Convergence, sympathie, amitié surtout, compagnonnage spirituel. Quand la condamnation de l'Action française tombe en 1926, Maritain va tout faire pour essayer de réveiller Maurras. Ce qui l'intéresse, c'est l'âme de Maurras, sa conversion. Maurras a écrit « Politique d'abord » en 1913. Maritain va répondre en écrivant « Primauté du spirituel » en 1927. Regardons un peu les trois chapitres de « Primauté du spirituel ». Les deux pouvoirs, une crise de l'esprit catholique, Dieu premier servi. Le titre est assez éloquent. Il s'agit de dire le primat du spirituel en ayant distingué les deux plans, politique et spirituel. Philosophiquement parlant, qu'est-ce qui nous intéresse ici ? Eh bien, c'est le rapport finalement au libéralisme. Le libéralisme est vu comme un danger. Le pape Léon XIII publie plusieurs encycliques et Maritain va s'inscrire dans ce courant en identifiant cette erreur du libéralisme. Et on voit déjà que cette réflexion sur la politique et le spirituel engage un slogan, un motus, une façon de penser de Maritain qui est liée au mystère de l'incarnation, à savoir l'inscription du spirituel dans le temporel ou bien la descente du spirituel dans le temporel. Les sept erreurs du libéralisme, les voici. La première, c'est la confusion entre liberté et indépendance. C'est l'autonomie au sens de Kant qui est à condamner. Voici ce que Maritain écrit. Ce qui est condamnable, c'est finalement le fait de penser que la liberté consiste dans une indépendance à l'égard de ce qui est et dans le refus de tout magistère. On le voit, Maritain va donner une fin supravalente, une fin plus grande, si vous voulez, à travers la fin de l'homme, qui est la vision de Dieu. Et au nom de cette fin supravalente, le politique doit être subalterné au spirituel. Deuxième erreur du néolibéralisme ou du libéralisme, c'est de nier le droit du pouvoir spirituel à intervenir dans les choses temporelles. Et Maritain analyse ce défaut, cette erreur, dans la première partie de Primauté du spirituel. Troisième erreur, nier que la société civile est elle-même une fin d'ordre non seulement matériel, mais aussi moral. Et là, Maritain cite largement trois encycliques de Léon XIII. Voici un résumé. L'homme est né pour vivre en société, car ne pouvant acquérir dans l'isolement ni les ressources nécessaires à l'entretien de la vie, ni la perfection de l'esprit et du cœur, la Providence l'a fait pour s'unir à ses semblables en une société non seulement domestique, mais aussi civile, qui seule peut procurer la parfaite suffisance de la vie. Ce qui est vrai de l'homme considéré individuellement l'est aussi de la société tant domestique que civile. La nature, en effet, n'a pas fait la société pour qu'elle soit la fin dernière de l'homme, mais aussi pour qu'il trouve en elle et par elle des secours qui l'aident à atteindre à sa perfection. On le voit, la subalternation des fins fait que la société civile n'est pas une fin en elle-même, elle est un moyen qui va être connecté, pour prendre un terme moderne, à la fin ultime de l'homme qui est sa vision de Dieu, sa vie spirituelle. Comme nous l'avons dit dans d'autres émissions, nous sommes in via sur terre pour aller dans la patrie, en pèlerinage, pour aller vers cette vision de Dieu qui est celle des bienheureux et de la béatitude céleste. Quatrième erreur, la fin de la société civile est aussi de procurer le bien véritable humain et donc moral. On ne peut pas se contenter de demander à la société civile des biens matériels. Cinquième erreur, le pouvoir civil a bien sa source en Dieu et non dans la multitude. C'est l'erreur de Rousseau. Maritain, pour rappel, a consacré un livre publié en 1924 qu'il intitule « Trois réformateurs » à Rousseau. Rousseau fait l'objet de la troisième partie. Le premier réformateur, c'est Luther, le deuxième, Descartes, et le troisième, Rousseau. Sixième erreur, c'est de penser que les lois civiles n'obligent pas en conscience. Et là, Maritain revient sur un point qui lui est cher. Il est permis de résister aux lois injustes. Septième erreur, rappeler que le salut n'est pas ailleurs que dans le Christ. Cet oubli coûte cher au libéralisme. Maritain est quelqu'un qui n'a jamais été dans un parti politique et qui cependant s'est toujours occupé d'être un philosophe dans la cité, dialoguant avec d'autres couleurs politiques.
Maritain a toujours eu un rapport beaucoup plus fin à la démocratie que Charles Maurras. Maritain n'a jamais succombé au charme du nationalisme. Je défie quiconque de trouver une ligne nationaliste dans l'œuvre de Maritain. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment une proximité amicale, mais proprement dans la ligne des Maritains, au sens où, par l'amitié, c'est aussi du spirituel, de la conversion qui peut aussi s'inscrire. Mmh. Et pour finir le tableau, Maritain est également proche des démocrates chrétiens sans appartenir au parti MRP ou de la démocratie chrétienne. Il fréquente les Georges Bidault, il fréquente les Schumann, etc., etc. Mais Maritain est également proche du général de Gaulle. Il n'est pas pour autant gaulliste. Maritain.
Pas à la même période.
Oui. Non, pas à la même période,
oui,
bien sûr.
Ce que
je veux dire simplement, c'est que dans la vie de Maritain, il y a des amitiés politiques bien au-delà du milieu Action française. Et l'amitié avec Blum, elle se prolonge jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Maritain sera vice-président un peu par erreur et il demandera une rectification, mais des amitiés qui se créent autour de Léon Blum après la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, le rapport à la politique de Maritain est extrêmement curieux, défie toute perspective d'affiliation, et il y a vraiment là un mode propre de l'être de Maritain auprès de milieux culturel d'influence.
Vous le constatez, le débat est délicat. Il s'agit donc de Régis Burnet, qui est le journaliste, interrogeant Florian Michel et Louis Chamings, tous les deux membres actifs du cercle d'études Jacques et Raissa Maritain. Le débat est complexe et philosophiquement, Maritain va s'appuyer sur la doctrine de saint Thomas d'Aquin du régime mixte. Quelle est-elle ? Saint Thomas distingue finalement trois manières, le régime royal, le régime républicain et ce régime mixte, le parfait régime mixte, qui combine le principe monarchique, commandement par un seul, chargé de l'unité du tout, avec le principe aristocratique, distribution des charges au meilleur, et avec le principe démocratique, participation de la multitude à la gestion de la cité. Dans ce parfait régime mixte, le bien commun temporel est envisagé et visé directement dans toute sa hauteur, dans toute son intégrité d'œuvre politique, humaine, rationnelle et morale, d'une œuvre politique à parfaire, et ce régime se présente formellement comme la vie vertueuse de la multitude rassemblée en un. Un tel régime, commente Maritain, qui se recommande au point de vue du plus grand bien, est essentiellement constitué sous le signe de l'unité et de la valeur ou vertu, la part des directions de l'autorité publique ou du gouvernement comme tel dans la vie des hommes y est forte, à cause même de sa hauteur de conception et de la prépondérance du soin des intérêts moraux impliqués dans sa définition, il est amené à régler d'une manière particulièrement ferme les diverses libertés dont traitent les documents que nous venons de citer. Et il appelle du même coup l'entière application des principes qui exigent la subordination de la souveraineté temporelle à la souveraineté spirituelle. Visant positivement la vie selon la vertu, il doit être positivement soumis aux directions de la cité supraterrestre chargée de conduire l'homme à sa fin dernière. Maritain, ici, défend un régime qui a une unité. Il est appuyé sur une vie vertueuse de la multitude. Et toute l'orientation de Maritain va consister à articuler cette unité à la multiplicité. On va déboucher en 1936 sur Humanisme intégral, qui répond à cette question de l'articulation du un sur le multiple à partir de l'analogie, qui permet justement la différence de l'ordre de la spécification et de l'ordre d'exercice, aussi bien au plan de l'histoire qu'au plan de la cité. Et c'est avec ce souci de la multiplicité que Maritain va pouvoir écrire, déjà dans les questions de conscience qui seront publiées avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il va parler de l'action chrétienne, de l'action catholique. Et on retrouvera dans cette action catholique une différence entre le régime spirituel, le régime temporel et le régime mixte du spirituel dans le temporel. Et l'action catholique s'appuie elle-même sur une autre distinction maritainienne, celle de agir en chrétien ou agir en tant que chrétien. Donc, on voit bien que la réflexion politique de Maritain, c'est-à-dire son rapport à la politique, pour reprendre le titre de l'émission, est complexe et procède toujours par approfondissement à partir des échanges qu'il a pu avoir avec les uns ou les autres. Alors pour vous le faire comprendre, j'ai pensé vous faire écouter une œuvre de Arthur Laurier. Arthur Laurier est un juif russe, réfugié, qui arrive en 1924 à Paris, qui se rapproche tout de suite des Maritains, puisqu'à Meudon, dans leur maison de la rue du Parc, les Maritains reçoivent toute l'avant-garde intellectuelle et artistique, et en particulier des Russes, puisque Raïssa et Vera parlent russe et sont russes. Et Arthur Lourier sera un ami de longue date. C'est même à lui qu'ils lui céderont la maison de Princeton. En 1927, Arthur Lourier écrit une gigue dédiée à Maritain. Et en l'écoutant, je me suis interrogée. En quoi cette gigue peut-elle correspondre à Maritain? Il y a plusieurs réponses. La première, c'est que c'est une danse. Et il y a quelque chose de joyeux dans la gigue, qui est une danse rapide. La deuxième, c'est qu'on part vraiment des graves dans le piano, comme s'il y avait un fondement, qui est le fondement spirituel, et à partir de ce fondement, on va s'élever, comme si on respectait finalement la loi de la nature. Un son a une fondamentale, puis des harmoniques, la quinte, la tierce, l'octave, etc. Troisième explication, on va balayer différentes tessitures, comme si la scolastique, la philosophia perennis, allait toucher différents domaines de manière toujours dynamique et active, et non pas de manière systématique. Ce n'est pas un système, ce n'est pas un dogme, c'est quelque chose d'organique. À vous, à force d'écouter les émissions de Maritain et de rentrer dans cette œuvre d'Arthur Lourier, de voir comment on peut justifier cette dédicace à Jacques Maritain.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Un organisme que la pensée de Jacques Maritain et surtout en ce qui concerne son rapport à la politique. Je vous parlais donc de l'action catholique et de l'action politique. C'est la quatrième des questions de conscience et voici ce que Maritain écrit pour bien comprendre ce passage du plan spirituel au temporel. Rappelons ici brièvement qu'en définitive, et pour qui considère les choses avec attention, les activités du chrétien se distribuent sur trois plans. Le plan du spirituel, celui du temporel et un plan intermédiaire où le spirituel joint le temporel afin, premièrement, d'éclairer et aider pour le temporel l'œuvre temporelle elle-même. Deuxièmement, dissolver pour le spirituel les objets propres de celui-ci. Du fait qu'il y a connexion entre le spirituel et le temporel, et que le premier est supravalent, il y a lieu de mentionner à part ce troisième plan, avec les deux fonctions principales qui comportent l'activité du chrétien. Mais il n'est à vrai dire que le plan du spirituel lui-même pris dans certains de ses attributs et dans l'intégrité de son extension. Sur le premier plan d'activité, l'homme agit comme membre du corps mystique du Christ et engagé dans les affaires de Dieu. Sur le second, comme membre de la cité terrestre et engagé dans les affaires de la vie terrestre. Ces deux ordres sont distincts. Ils ne sont pas séparés. Vous remarquez ici toujours le vocabulaire de Maritain très précis qui renvoie vraiment à un chef-d'œuvre, les degrés du savoir distingués pour unir et non séparés. Si la grâce nous prend et nous refait par le fond de l'être, c'est pour que notre action tout entière s'en ressente et en soit illuminée. Mais ici, sur le plan temporel, notre action, si elle est ce qu'elle doit être, sera une action chrétiennement inspirée, et toutefois ne se présentera pas comme spécifiquement chrétienne. Elle se présentera comme formellement déterminée par tel objet temporel et telle spécification temporelle, action politique, nationale, culturelle, d'inspiration chrétienne. Là, sur le plan spirituel, elle ne sera pas seulement d'inspiration chrétienne, elle se présentera aussi dans la mesure même où elle aura pour objet l'expansion du royaume de Dieu dans les âmes, comme spécifiquement chrétienne. Il s'agit de l'apostolat chrétien. Et il en sera de même sur le troisième plan, sur le plan du spirituel considéré dans sa connexion avec le temporel, selon que l'action du chrétien y relève encore de l'apostolat, mais comme touchant les choses de la terre, je veux dire selon qu'elle s'adonne à infuser dans la vie temporelle la sève évangélique et à promouvoir cette sagesse théologique appliquée aux réalités humaines qui, sans suffire à régler seul le concret politique, économique et social, est à son égard comme un firmament doctrinal, ou selon qu'elle intervient dans la politique, quand la politique touche à l'autel et met en jeu les intérêts éternels. Le labeur de l'action catholique s'accomplit tout entier sur le premier et le troisième plan, celui de l'action politique sur le deuxième. Page tout à fait programmatique, puisque vous avez la reprise de la différence entre le plan de la détermination et le plan du paramètre conditionnant, la spécification et l'exercice. Vous avez déjà la différence entre agir en chrétien et en tant que chrétien. Et vous avez une explicitation possible de cette connexion, le mot de Maritain lui-même, entre le spirituel et le temporel. Et cette réflexion sur la politique, je voudrais la mettre en perspective pour terminer cette première émission du mois consacrée à la politique Jacques Maritain, en vous parlant de l'Église du Christ. Maritain va partir à Paris au mois de janvier, déposer chez Fayard son dernier ouvrage qui est finalement une compilation de plusieurs écrits. Il intitule cette œuvre « Approche sans entrave ». Et il y a toute une réflexion qui est importante pour nous parce qu'il y a les cours donnés aux petits frères de Foucault. Il a vécu ici à Toulouse dans les cabanes en bois des petits frères de Jésus. Et juste avant sa dernière publication, qui est posthume, vous avez l'Église du Christ. Et dans cet ouvrage, il va insister sur la différence entre la personne de l'Église et le personnel. Et à mon sens, c'est finalement encore une lecture politique de Maritain qui lui permet d'avoir cette vision très profonde sur l'Église, vision qui lui permet de commenter le procès de Jeanne d'Arc, le procès de Galilée, et de donner un éclairage qui sorte de la binarité « Oh, l'Église, elle a beaucoup à se reprocher, etc. etc. » qu'on entend souvent, même quelquefois chez les chrétiens. Si cela vous donne envie de lire les ouvrages de politique de Jacques Maritain, il me semble que c'est important parce que sa fondamentale, pour rester dans la métaphore de la Gigue de Laurier, reste bien Dieu. Et Dieu est la fin supravalente. Et la finalité de Maritain dans ses écrits politiques est aussi finalement une réflexion sur l'Église. À bientôt, à la semaine prochaine.